VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Nouakchott, 13h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Burundi, 7 personnes au moins tuées hier dans une fusillade et une attaque à la grenade à Bujumbura, la capitale. Le point avec Michel Joseph.
Selon des habitants du quartier de Ngarara, un bastion de l'opposition, la grenade a tué 2 policiers dont les assaillants ont été abattus par d'autres agents. Et puis, ajoute-t-il, un caméraman de la télévision d'État, Christophe Nkezaba Hizi, sa femme et ses 2 enfants ont été retrouvés morts chez eux, victimes de balles. Près d'eux, il y avait les corps d'autres personnes qui fuyaient les tirs. Pierre Nkorokiye, porte-parole adjoint de la police, a confirmé la mort du caméraman, d'un policier et de 5 criminels, mais il n'a rien dit sur la famille de Nkezaba Hizi. Les activistes burundais et les autorités ont signalé, il est vrai, un certain nombre d'apparents assassinats ciblés dans le pays. Et on rappelle que le mois dernier, le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme, Zeid Raad al-Hussein, avait déploré un regain alarmant de tueries et d'arrestations au Burundi depuis la prestation de serment de Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat fort controversé.
En RDC, poursuite du bras de fer entre le pouvoir et l'opposition sur fond de dissension à la fois au sein de la majorité présidentielle et chez les opposants. Au micro de Timothée Donangmaï, les commentaires de Félix Tshisekedi au responsable de l'UDPS, principal parti congolais d'opposition.
Les contacts entre partis d'opposition existent, mais il subsiste encore quelques divergences, notamment sur le grand sujet qui concerne le dialogue. Malheureusement, nous n'arrivons pas à accorder nos violons là-dessus. Nous, de l'UDPS, évidemment, notre position est connue parce qu'elle a été suffisamment étayée. Nous voulons d'un dialogue, seul cadre qui peut à nouveau redonner une orientation à la situation politique. Les autres amis de l'opposition ne le voient pas de cette manière, mais ce qui est regrettable, c'est qu'ils n'apportent pas une contre-proposition claire. Bon, mais j'ai confiance aux uns et aux autres, mais je sais que nous évoluerons et nous finirons par nous entendre.
Mais même du côté de l'UDPS, vous avez émis des réserves par rapport au dialogue national.
Pas des réserves comme telles, mais nous nous sommes retirés effectivement du pré-dialogue qui nous avait été proposé par le camp Kabila pour préparer le dialogue. Donc nous étions enchantés à l'idée d'avoir ces échanges et il se passait très bien. Mais quand nous avons vu que sur le terrain, les actes posés par le même camp étaient contraires à l'esprit qui prévalait au pré-dialogue, nous avons donc décidé d'arrêter ces échanges que nous trouvions hypocrites.
Des courants contradictoire traverse en ce moment la majorité présidentielle. Qu'en dites-vous?
C'est la preuve que ce régime est en train d'arriver vers sa fin. Déjà, ce mandat a été chahuté, comme vous le savez, depuis les élections de 2011, qui ont été fortement contestées et teintées de beaucoup d'irrégularités. Ce régime avait déjà perdu son illégitimité. Et donc maintenant, comme on arrive à une période cruciale, une échéance importante pour le pays, bien évidemment, les rats quittent le navire, comme dit l'expression.
Félix Tshisekedi, haut responsable de l'UDPS, actuellement en visite à Ottawa, au Canada. Burkina Faso, Amnesty International réclame une enquête indépendante sur le coup d'État manqué du mois dernier dans le pays. L'Organisation de défense des droits humains a protesté contre l'attribution de ce dossier à la justice militaire burkinabé lors d'une conférence de presse aujourd'hui à Ouagadougou. Affaire Sankara maintenant, le rapport d'autopsie de l'ancien président Thomas Sankara précise que le corps du leader assassiné était criblé de balles. Les premières inculpations dans ce dossier ont été annoncées hier, 28 ans après l'assassinat du président. Les explications de maître Benewende Stanislas Sankara, avocat de la famille du leader disparu.
La suite de la procédure, c'est que nous avons 15 jours pour faire nos observations et si on veut également des contre-expertises, nous en avons la possibilité. Mais je dois vous dire qu'il s'agit d'un dossier d'instruction. Et le juge a voulu que les parties, puisque vous avez même vu que dans la salle, il y avait les inculpés. Si vous ne le savez pas, il y avait en tout cas quelques 4 inculpés comme ça avec leurs avocats. Donc chacun est venu prendre connaissance des éléments du dossier. Et nous pensons que la suite, c'est le rapport sur les tests ADN. Et à partir de là, le juge va certainement continuer les convocations, peut-être des inculpations.
À ce jour, il y a combien de personnes inculpées là?
Je pense qu'il y en a 8 ou 9. Il y en a qui sont déjà déférés, il y en a qui ne sont pas déférés.
Maître Benewende Stanislas Sankara, avocat de la famille du président Thomas Sankara.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, la campagne présidentielle est en cours. Au micro de Jean-Roger Bion, un coup de projecteur sur les activités des candidats avec Christine Pelcha, directrice résidente de l'ONG américaine d'observation électorale NDI à Abidjan.
La campagne a commencé depuis vendredi dernier. Les indications que l'on a, parce que nous avons des observateurs sur le terrain, c'est que tout se déroule dans le calme pour l'instant.
Pensez-vous qu'il y a des menaces de troubles à l'horizon, étant donné que l'opposition a fait valoir son désaccord par rapport à la composition de la commission électorale?
Ce n'est pas toute l'opposition. Bon, M. Afine Guessa, qui est de l'opposition, depuis que la campagne a commencé, il est un peu partout. M. Bani, qui est le candidat officiel de la CNC, est aussi en campagne. Il y a M. Kakabé aussi, qui est en campagne, les candidats indépendants, et il y a 4 autres candidats indépendants qui sont aussi en campagne, en plus du RHDP.
Christine Pelcha, directrice résidente du NDI à Abidjan. Notre série sur la crise migratoire, aujourd'hui coup de projecteur sur la Libye, pays de transit pour beaucoup de migrants africains en route pour l'Europe. Le chaos qui règne à Tripoli et ailleurs en territoire libyen favorise les activités des groupes terroristes et crapuleux qui exploitent les migrants. Plus de détails avec notre envoyé spécial en Italie, Nicolas Pino.
Sama Tunkara secoue sa tête à chaque fois qu'il se remémore son expérience libyenne. Ce jeune Malien de 23 ans a ainsi dû travailler gratuitement dans un camp militaire sous la contrainte d'une arme.
Tripoli. Chaque jour, on fuit. Les gens viennent avec le fusil, là où on s'assoit pour chercher du travail. Chaque jour, on fuit là-bas. Chaque jour. Les Arabes viennent, on va te prendre pour aller, viens travailler, venez. Si tu partais, tout l'argent que tu as, on va enlever tout. Libye n'est pas bon.
Un moindre mal comparé au calvaire imposé à la majorité des migrants. Les personnes interrogées au cours de notre enquête ont toutes décrit à VOA Afrique les mêmes abus, tortures et privations de liberté. De nombreux candidats au voyage vers l'Europe n'ont pas conscience des dangers de leur aventure. C'est ce que résume Federico Soda, coordinateur pour la Méditerranée de l'Organisation internationale pour les migrations à Rome.
Beaucoup d'entre eux ne sont pas bien informés sur la situation en Libye. Ils ne se rendent pas compte des dangers et du fait que les passeurs sont de plus en plus violents. Quand ils arrivent en Italie et que nous leur parlons, ils racontent des choses terribles sur ce qu'ils ont vécu. Pour les femmes, il est souvent question de sévices sexuels.
Autre exemple, depuis 1000 ans, Abdallah Harkou raconte son douloureux périple dans le désert libyen. Ce Soudanais de 32 ans se souvient ainsi des 7 personnes qui ont trouvé la mort par manque d'eau et de nourriture. Comme ses compagnons d'infortune, il a été battu et emprisonné à El Dabiya, Beni Walid, puis Tripoli. De nombreux groupes opèrent en Libye, un état en faillite depuis la chute du colonel Kadhafi. Les migrants rencontrés par VOA Afrique expliquent avoir été contrôlés par des Libyens, des Tchadiens, des Soudanais et même des éléments se réclamant du groupe État islamique. Muammar Kadhafi avait promis aux Occidentaux que des vagues de migrants s'abattraient sur l'Europe après sa chute. L'histoire semble donner raison aux guides libyens. Il faut rappeler que jusqu'en 2011, la Libye, pays pétrolier, attirait et employait une grande main-d'œuvre étrangère, notamment subsaharienne. Les migrants économiques n'y trouvent aujourd'hui plus de travail. Ils n'ont d'autre choix que de fuir et de traverser la Méditerranée dans l'espoir d'un avenir meilleur. Actualité... Depuis la Sicile, en Italie, Nicolas Pino, VOA Afrique.
Actualité américaine pour terminer avec le premier débat télévisé de la primaire démocrate pour la présidentielle de 2016 à Las Vegas, au Nevada, avec notamment l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton. Eric Maniga accusa.
Le débat s'est vite transformé en duel entre Hillary Clinton et Bernie Sanders sur la question des armes. L'ancienne secrétaire d'État a vertement critiqué le sénateur Sanders pour son opposition à la législation sur le contrôle des armes à feu. Mais Sanders a plutôt appelé à plus stricte vérification des antécédents et à la meilleure qualité des services de santé mentale. Les deux rivaux ont par la suite trouvé un terrain d'entente sur l'utilisation d'un serveur de messagerie privée par Mme Clinton.
I am happy to be part of this debate and...
Let me say something that may not be great politics, but I think the Secretary is right. Enough of the emails. Let's talk about the real issues facing America.
Le peuple américain est fatigué de vos maudits emails, a lâché Sanders. C'est l'image la plus forte de ce débat. Clinton et Sanders se serrent la main avec un sourire.
Merci Eric Manirakiza. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Moi, je viens de là où...